Aujourd'hui n'a pas été annoncé dans l'heure précédente, mais vous vous rappelez, ceux qui étaient là, en tout cas la fois dernière, que le groupe que nous formons avait choisi le sujet de la Bible, de la doctrine de la Bible, de ce qu'on appelle plus techniquement la bibliologie. Je prévois une série qui devrait à peu près couvrir ce qui reste de l'année d'activité jusqu'au mois de juin prochain, avec aujourd'hui une première étude assez englobante sur la nature de la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Quelle formule allons-nous employer pour la caractériser? Puis ensuite, une étude sur la vérité de la Bible. La vérité de la Bible est la pointe de l'affirmation de cette vérité, qui est l'absence d'erreur dans la Bible. Et nous essaierons d'affronter les difficultés à cet égard. Donc ce sera la deuxième étude pour la fois prochaine. Je pense que ce sera au mois de février, si le projet que le Conseil a élaboré se réalise. Une étude, une information supplémentaire, la question du canon. Comment la liste des livres qui constituent l'Ancien Testament a-t-elle été mise au point? Quelles ont été les étapes historiques, les principes mis en œuvre? La question du canon de l'Ancien Testament, des livres que les catholiques appellent deutérocanoniques, qui s'ajoutent au canon que nous recevons, ce sera l'objet d'une troisième étude. Quatrième étude, le canon du Nouveau Testament. Comment les livres qui composent notre Nouveau Testament ont-ils eux aussi été choisis? Et puis je pense que nous pourrions avoir, là ça commence à être un peu plus lointain, mais nous pourrions avoir deux études sur l'interprétation de la Bible. Comment bien lire la Bible, comment comprendre ce qui s'y trouve. Une étude sur les principes, les grandes lignes, une étude qui chercherait à appliquer davantage, à prendre quelques cas. Voilà le schéma de la série que nous allons entamer aujourd'hui et que je vous propose. Nous pouvons, chemin faisant, corriger la trajectoire, rajouter quelque chose, c'est un peu selon votre demande aussi, n'hésitez pas à vous exprimer au cours de l'année. Mais aujourd'hui donc, il s'agit de la nature de la Bible ou Écriture Sainte. Qu'est-elle d'après les diverses descriptions qu'on en peut faire?
Les chrétiens que nous sommes se définissent par leur attachement à la Bible. Nous sommes des chrétiens évangéliques. Or, évangélique, ça veut dire à peu près bibliciste, qui se réclame d'emblée et jusqu'au bout comme des auditeurs de la Bible, qui veulent se confier entièrement à l'enseignement de la Bible. Et cette position n'est pas celle de tous les chrétiens, de tous ceux qui se disent chrétiens. Il y a des attaques qui viennent du dehors, mais aussi du dedans, dans les églises, à l'égard de cet attachement inconditionnel, sans réserve à la Bible. Donc, il faut que nous soyons au clair. Il faut que nous sachions la sûreté des paroles sur laquelle s'appuie notre foi. Alors, je vous invite à commencer par la lecture d'un passage de l'Écriture sainte, de la Bible elle-même. Puis ensuite, nous prierons ensemble et je demanderai à notre frère M. Christian Dougou de nous conduire dans la prière après cette lecture. Mais je fais d'abord une lecture dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre. C'est en quelque sorte son testament spirituel.
Peu avant qu'il quitte cette terre, et il le dit lui-même, je lis au chapitre 1er à partir du verset 12 dans la Bible dite du Semeur. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux, car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire, lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. C'est pourquoi nous tenons pour d'autant plus digne de foi la parole des prophètes, que vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jusqu'ici, notre lecture. J'adopterai une méthode d'approche par degrés, venant en quelque sorte de très loin, du point de vue d'un observateur extérieur. J'essaierai de répondre à la question « Qu'est-ce que la Bible ? Quelle est la nature de l'Écriture sainte ?» en m'approchant progressivement du centre de la vérité clé, de la vérité cœur de l'affaire. Mais je pense qu'il est juste de commencer en prenant les choses d'un peu plus loin, avec une sorte de recul, et je répondrai à la question de la nature de l'Écriture sainte en disant d'abord « C'est un monument de la culture universelle ». Et oui, la Bible, c'est un recueil classique entre les classiques, plus que classique pourrait-on dire, un chef-d'œuvre reconnu de l'Antiquité qui a nourri des générations et des générations de penseurs, d'artistes, qui a façonné la représentation du monde que se sont faites pratiquement toutes les lignées de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre classique ? C'est une œuvre assez puissante, assez rigoureuse pour rester admirable au fil du temps, pour ne pas passer de mode. La mode, c'est ce qui paraît laid d'abord et puis qui plaît et puis qui vieillit ensuite, mais les classiques demeurent. Les classiques ont cette capacité de résister à l'usure du temps. Et pourquoi ? Parce que les classiques, dans leur sobriété, dans la solidité de leur charpente, offrent des points de repère aux êtres humains. C'est en se référant à ces classiques, aux grands symboles que les auteurs des classiques ont proposé, que les gens se repèrent dans la vie, que la communication entre les humains peut se faire. Nous n'aurions pas beaucoup de sujets de conversation si nous n'avions pas certaines lectures, certains films que nous avons vus. L'appauvrissement culturel, dont on peut d'ailleurs redouter qu'il soit le cas d'un certain nombre de nos compatriotes ou concitoyens aujourd'hui, vient justement de la perte de ces repères multiples, de ces façons d'illustrer ce qui arrive et du même coup de mieux comprendre. Un chef-d'œuvre classique, c'est un chef-d'œuvre qui offre comme un instrument pour se repérer dans l'existence, pour savoir aussi enrichir avec plus de finesse, de sensibilité, les moments successifs de l'existence et toutes les relations humaines. La Bible est un monument, un chef-d'œuvre de la culture. Nul ne peut le nier, même les incroyants la reconnaissent comme telle, ceux en tout cas qui ont un minimum de culture. Un professeur très fameux de littérature comparée à l'Université de Toronto, qui s'appelle Northrop Frye, qui n'est pas un chrétien, en tout cas pas un chrétien évangélique, je peux vous l'assurer, son livre le montre assez, a écrit un livre intitulé « Le Grand Code ». Ce livre, c'est une présentation de la Bible. C'est en fait le contenu d'un cours qu'il s'est senti obligé de dispenser à ses étudiants en littérature. Il s'est rendu compte qu'avec le déclin de la connaissance biblique, même dans le monde anglo-saxon, alors que dire de notre propre situation française, ces étudiants n'étaient plus capables de comprendre les grandes œuvres de notre tradition littéraire. Parce que les auteurs comme Milton, Pascal, Montaigne étaient nourris de la Bible. Et si on ne connaît pas la Bible, on ne comprend pas. Et là, je parle d'auteurs dans le domaine littéraire, mais on peut parler d'eux-mêmes, des peintres, des sculpteurs. On ne peut pas apprécier si on ne connaît pas la Bible, si on n'a pas été cultivé par la lecture de la Bible. Alors il a fait un cours d'introduction à la Bible, lui qui ne l'a pas fait dans la foi, pour permettre à ses étudiants de mieux apprécier les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, et en particulier occidentale. Et il a repris pour cela une expression d'un poète qui lui non plus n'était pas un chrétien évangélique, un poète anglais fameux, William Blake. La Bible est le grand code de notre culture, a-t-il dit. En France aujourd'hui, il y a des gens qui se rendent compte de ce rôle indispensable que pour la culture, la Bible doit jouer. Et vous avez des tendances antagonistes qui jouent, je crois que je peux le dire, que j'ai été suffisamment informé pour pouvoir le dire, dans l'éducation nationale. Il y a une tendance qui dit il faut introduire de la connaissance biblique à l'université, parce que nos étudiants sont devenus complètement incultes, ne savent plus rien en matière biblique et ne peuvent plus faire les études qu'ils doivent faire. Et puis d'autre part, surtout face à la montée des sectes et devant le péril islamique, alors vous avez une réaction dure de la laïcité à la française, qui est une laïcité d'abstention. On ne dit rien. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de Bible. Et du coup, vous avez deux tendances antagonistes dans les cabinets ministériels, dans les instances de l'éducation nationale aujourd'hui. Mais ce qui est en jeu, c'est ce rôle de la Bible comme monument de la culture universelle. Nous n'avons pas à mépriser cette première façon de caractériser la Bible. Je pense qu'au moins à trois égards, nous pouvons lui donner quelques valeurs, même si c'est quelque chose qui reste très, très extérieur au bout du compte, ce n'est pas le cœur de l'affaire. En premier lieu, il est précieux pour nous de savoir qu'en nous adonnant à la lecture biblique, en travaillant notre Bible, nous nous cultivons, et qu'il y a aussi cet avantage, en quelque sorte, comme par surcroît, cette cerise sur le gâteau que le Seigneur nous donne en nous conduisant dans la lecture biblique. Et c'est peut-être plus spécialement une réflexion que les parents peuvent faire en rapport avec leurs enfants. En faisant lire la Bible aux enfants, on leur donne un instrument de culture qui leur sera précieux. Vous avez parfois des parents qui ont une idée, je crois, tout à fait tordue, mais c'est certains courants dans le monde qui induisent de telles idées en disant « Oh, il ne faut pas que je fasse lire la Bible à mes enfants, il faut que je le laisse libre, il faut que, en quelque sorte, je ne l'influence pas. » Alors c'est là, très, très myope, très sot même, parce que de toute façon, il y a l'influence massive d'un monde incroyant qui s'exerce sur ses enfants. Mais aussi par rapport à la culture, il y a un argument. Donc on peut mentionner cet aspect-là. Deuxième argument auquel je pense pour montrer de la valeur quant à la culture de la Bible, la piété biblique, précisément, n'est pas la piété d'un petit groupe marginal, sectaire, qui se désintéresse du développement humain. Le Dieu qui nous parle par la Bible est le Dieu qui nous a créés, qui veut faire de nous des hommes et des femmes qui développent tout leur potentiel, qui atteignent une image déployée, en quelque sorte, de l'humain. Donc la culture, en fait, ce n'est pas quelque chose que Dieu mépriserait et qui nous enseignerait à mépriser. La culture, c'est l'ordre du Créateur. Mettez en culture le monde entier. Soumettez la terre et la culture, même au sens artistique, c'est un aspect de cette mise en valeur de ce que Dieu a créé au commencement, mise en valeur qu'il confie à l'homme créé en son image. Et nous honorons cette intention du Créateur lorsque nous apprécions à sa juste valeur la Bible comme chef-d'œuvre de culture. Et du coup, je crois que nous montrons bien que nous ne sommes pas une secte. Parce qu'il me semble que c'est un des traits caractéristiques des sectes en général, qu'elles se sont coupées des grandes valeurs de la culture. Vous n'avez pas dans les sectes de véritable intérêt pour Platon, pour Saint-Augustin, pour Pascal, non. Ces géants de la culture sont comme en dehors. Et si nous les méprisons, si nous n'avons pas, nous, d'intérêt pour eux, c'est peut-être un signal d'alarme. Est-ce que nous ne sommes pas en train de virer à la secte? Voir au contraire que la Bible forme du dedans, bien des aspects de la plus haute culture, je crois que c'est aussi une chose qu'on doit souligner. Et puis, alors, il y a le point de vue, en troisième lieu, le point de vue utilitaire, mais enfin, il n'est pas méprisable non plus. C'est un point de contact dans le dialogue avec les incroyants qui nous entourent. Nous pouvons les inviter à lire la Bible, au moins pour sa valeur culturelle. Et lorsque nous faisons des expositions bibliques, c'est un ressort que nous faisons jouer. Et cela est juste et bon. Donc, première façon de dire ce qu'est la Bible, quelle est la nature de l'Écriture sainte, souligner cette valeur culturelle. Si on se rapproche un peu davantage du centre, je pense qu'on peut dire livre sacré d'une religion. En fait, c'est même pas une, c'est deux et peut-être trois. Et là surgissent immédiatement des problèmes qui ont rapport à l'interprétation et aussi peut-être à la question du canon que nous verrons plus tard. Car notre Bible, en ce qui concerne en volume sa plus grosse moitié, nous est commune avec le judaïsme, comme vous le savez bien. Et j'ai dit peut-être trois, dans la mesure où l'islam a reconnu comme texte de révélation la Torah de Moïse, les psaumes de David, l'évangile de Jésus. Alors bien sûr, il y a des thèses qui sont d'ailleurs un peu compliquées, et il y a des débats qu'on peut avoir sur les prétendues corruptions qu'auraient introduites les juifs et les chrétiens, mais foncièrement, il y a quand même une reconnaissance. Et il y a en fait des bribes de savoir biblique qui sont intégrées dans le Coran lui-même. Le Coran n'est pas un livre indépendant, radicalement indépendant de la Bible, dans sa composition même. Donc on pourrait dire que la Bible est un livre sacré qui est commun même à trois religions, en tout cas à deux. C'est pourquoi on l'appelle Sainte Bible. L'adjectif sainte qui est utilisé sur la couverture de pas mal d'exemplaires de notre Bible souligne qu'il s'agit des textes considérés comme les plus sacrés par ceux qui se réclament historiquement de la religion chrétienne. De même que dans d'autres religions, il y a aussi des recueils de textes sacrés, les Védas pour la religion de l'Inde, l'Avesta pour la religion perse. La Bible, c'est le recueil des textes sacrés, et d'emblée, on a l'habitude de la situer dans la sphère religieuse, c'est-à-dire qui concerne la divinité, les questions ultimes de la vie, la manière de régler la question de la souillure que les humains éprouvent sur eux. Voilà un peu tout ce qu'on pourrait mettre sous l'expression le religieux. En fait, cette insertion dans la sphère religieuse est ambiguë, comme l'est la catégorie même de la religion. Devons-nous dire que le christianisme est une religion ou non? Ça dépend. Je ne suis pas prêt à souscrire à la réponse positive ou à la réponse affirmative sans nuance. Parce qu'en fait, le christianisme s'oppose à toutes les autres religions, si on l'appelle une religion, par des traits tout à fait essentiels. Dans ce sens, le grand théologien, qui n'était pas évangélique, mais qui était un grand théologien quand même, Karl Barth, a dit « La religion, c'est l'incrédulité. » la religion, toutes les autres religions, c'est le fruit de l'effort de l'homme qui essaye de grimper jusqu'au ciel, qui se construit des tours de Babel de diverses sortes pour s'élever jusqu'à la divinité, pour réussir à faire son salut. Et alors si on considère que toutes les religions sont comme ça, et que c'est cela qui définit la catégorie religion, une façon secrète pour l'homme d'exprimer en fait son refus du vrai Dieu, pour être son propre sauveur, alors il faut dire que la Bible n'est pas une religion, que le christianisme n'est pas une religion, et la Bible n'est pas un livre donc religieux. Mais en même temps, ce n'est pas la façon de parler courante. Dans la mesure où on appelle religion de manière assez neutre tout système organisé qui enseigne sur les relations avec Dieu et sur ce qu'il faut faire pour accéder jusqu'à lui, alors là il faut dire que le christianisme entre dans la catégorie, oui, entre dans la définition. Donc c'est ambigu. Mais qu'est-ce que nous apprend la définition de la Bible, définition encore assez extérieure, comme livre sacré? Il me semble que là aussi, il y a plusieurs points qu'on peut mettre en relief. Il y a principalement, si la Bible est le livre sacré de la religion chrétienne, comme automatiquement une valeur de norme qui s'attache à elle. Si c'est le texte sacré de la religion chrétienne, bon, eh bien, c'est à la Bible qu'il va falloir recourir pour savoir ce qu'est vraiment le christianisme. Et dans la mesure où c'est un sujet de dispute, où il y a rivalité, alors c'est la Bible qui prend la place de l'arbitre. Ça me paraît logique, ça me paraît la procédure normale. La référence à la Bible, texte sacré, c'est ce qu'ont en commun pratiquement toutes les églises qui autrement se combattent, s'anathémisent, que l'histoire nous présente. Et d'ailleurs, c'est impressionnant de voir comment des gens dont le christianisme ne ressemble pas au christianisme des autres gardent quand même une place pour la Bible importante. Vous allez dans les églises orthodoxes, il n'y a pas beaucoup de prêches, mais il y a quand même la Bible, ils étudient quand même la Bible dans leurs séminaires. Vous allez chez les coptes, la Bible est en bonne place. Vous allez chez les catholiques romains, la Bible, vous avez des universités avec l'Institut biblique pontifical, vous avez des recherches sur la Bible, vous avez une grande place aussi de la Bible. Donc pas seulement chez les protestants, pas seulement chez les protestants évangéliques que nous sommes. Alors dans la mesure où sur les autres points, tous ces divers chrétiens, tous ces divers rameaux de chrétienté ne sont pas d'accord, il me semble que la seule façon de pouvoir déterminer qui est plus proche de la voie droite, c'est de dire, regardons ce qui est dans la Bible. C'est la Bible qui va permettre de savoir. C'est le document de base que reconnaissent tous les chrétiens. Tous s'y réfèrent. Alors, laissons de côté les autres instances et considérons la Bible. Ça donne beaucoup de force au slogan des réformateurs qui était « par la Bible seule ». Par l'écriture seule, sola scriptura. Oui. Donc ça, c'est le grand avantage de cette manière de considérer la Bible comme le livre sacré de la religion chrétienne. Je pense qu'il y a aussi un autre avantage, c'est qu'ainsi, les attentes et les attitudes convenables nous sont en quelque sorte suggérées. Pour lire la Bible de la manière qui conviendra, qui correspondra à ce qu'on y trouve, il faudra avoir l'attitude de respect qu'on a dans le domaine religieux, le souci de plaire à celui qui est le premier et le dernier, le souci de son salut. On n'emploiera peut-être pas exactement ce terme, mais c'est l'attitude qui conviendra dans la lecture de la Bible, et on pourra attendre d'elle qu'elle donne une réponse sur de tels sujets. Mais ce n'est encore qu'une désignation très extérieure, qui peut être adoptée par n'importe quel observateur, même un croyant. C'est le livre sacré de la religion chrétienne. Si nous avançons un peu plus vers le centre, alors nous touchons ce qui me semble être un cercle de signification plus fermement dessiné dans toute l'écriture elle-même. Qu'est-ce que la Bible ? C'est le corpus prophético-apostolique. Oui, j'emploie une expression un peu technique, mais vous allez bien comprendre. En fait, je suis très proche d'une expression que l'Épître aux Éphésiens emploie au chapitre 2, au verset 20, qui dit que nous avons été édifiés, l'Église se construit sur le fondement des apôtres et prophètes. Alors là, il ne s'agit probablement pas dans ce verset des prophètes de l'Ancien Testament, mais la formule est quand même une formule très suggestive. Ce qui est à la base pour l'Église, c'est un ensemble, prophète-apôtre, et je dis que la Bible peut être décrite de manière exacte comme le corpus, c'est-à-dire l'ensemble de textes, de messages qu'ont émis les prophètes et les apôtres. Il me paraît important de noter cela quand on se rapproche du centre, de la vérité principale concernant la nature de la Bible. La Bible, ce n'est pas d'abord un livre. La présentation qui nous est familière de la Bible comme un volume de textes imprimés, de la Genèse à l'Apocalypse, ça correspond à un stade numéro 3 ou 4. Avant d'être un livre réuni comme ça, ce sont des livres qui ont circulé, qui avaient une sorte d'individualité. C'est une bibliothèque avant que c'était un livre. Et d'ailleurs, le mot même de Bible, en un sens, c'est par erreur qu'on en fait un singulier. Le mot Bible vient du latin biblia, qui a l'air d'être un singulier féminin en latin. La terminaison A en latin, c'est souvent ça. Bon. Alors, on a traduit Biblia, la Bible. Mais en fait, en latin, c'était simplement la reprise du grec, Biblia. Et en grec, ce n'est pas du tout un féminin singulier, c'est un neutre pluriel. Ta Biblia, les livres. Donc, au départ, le mot Bible évoque une pluralité de livres. Donc, le stade où nous avons un seul volume, c'est déjà un stade, voyez, plus tardif, en quelque sorte, que le stade où il y a plusieurs livres. Mais avant même d'être plusieurs livres, en tout cas pour beaucoup de nos livres bibliques, ce que nous avons comme texte a été dit, proclamé sur la place publique. Ça a été un message oralement prononcé et proposé. Ça a été un ensemble de discours, ensuite mis par écrit. On le voit très bien dans l'histoire du prophète Jérémie, par exemple, où Jérémie prêche sur la place publique, il va au temple, il dénonce les illusions de ses compatriotes, et c'est son ami, son secrétaire en quelque sorte, Baruch, qui met ces choses par écrit, sur des rouleaux, à cette époque-là. Et puis quand le roi, dans son mépris, va déchirer le rouleau et en brûler les lanières à son brasero, alors Baruch va recommencer, il va en écrire un autre. Là, nous est raconté au chapitre 36 de Jérémie. Cela illustre ce que j'essaye de dire, qu'avant d'être donc un ensemble de livres, c'est un ensemble de discours qui ont été tenus dans des circonstances extrêmement diverses par des hommes. Ce sont des hommes qui parlent avant que c'était un livre constitué. Et quels sont ces hommes ? De manière très générale, on peut dire que ce sont des prophètes. Au sens large du mot, parce qu'il y a un sens large et un sens plus étroit, au sens large du mot, ceux que nous rencontrons comme auteurs des livres bibliques, dont les paroles sont là, écrites sur le papier, ont été des prophètes. Le mot prophète veut dire porte-parole. Les prophètes sont les porte-parole qui parlent pour, c'est l'étymologie même du mot prophète, qui parlent pour, en fait, pour Dieu. Mais voyez, ce sont des porte-parole qui, sur des places publiques en général, parfois directement par écrit quand même aussi, ont porté les messages qui leur avaient été confiés. La Bible correspond à l'office de ces prophètes, et pour le Nouveau Testament, alors on dira plus spécialement apôtres, c'est-à-dire envoyés. Les apôtres, ce sont des porte-paroles eux aussi, mais des porte-paroles en mission, en quelque sorte. L'accent est mis sur leur mission et aussi sur leur privilège de représentation. Les apôtres représentent celui qui les a envoyés, conformément à des structures qui étaient fort admises dans la vie du judaïsme. Il y avait une institution du légat, du délégué, qui représente celui qui l'a envoyé. Et Jésus a souligné cette relation entre celui qui envoie et celui qui est envoyé, en disant « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. » Et puis il inscrivait cela dans la continuité de sa propre mission. « Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Jésus est le premier apôtre. Il est l'apôtre de notre foi. Il est appelé comme ça dans le Nouveau Testament. Pas très souvent, mais il est l'apôtre du Père. Et il envoie à son tour ses apôtres. Mais l'idée de porte-parole, vous le voyez, est à peu près conservée dans la notion même d'apôtre ou d'ambassadeur. On peut aussi dire ambassadeur. Vous vous rappelez que Paul dit nous faisons fonction d'ambassadeur pour le Christ. Je crois qu'il nous faut bien noter que pour la nature de la Bible qui nous intéresse dans cette première étude, la notion d'office prophétique et apostolique est tout à fait décisive. Dans la Bible, nous rencontrons des hommes, mais pas des hommes quelconques qui disent leurs propres pensées, qui émettent leurs propres jugements, mais des hommes qui remplissent un office dans lequel le Dieu les a placés. Et l'autorité de leur parole, c'est l'autorité de leur office. Un prophète parle avec autorité, comme un porte-parole, le porte-parole d'un roi ou du président de la République, parle avec l'autorité qui lui est donnée dans sa mission. L'apôtre vient avec l'autorité de celui qui l'a envoyé. L'autorité de la Bible, c'est l'autorité des prophètes et des apôtres. Vous avez relevé d'ailleurs dans le passage de la deuxième épître de Pierre que nous avons lu, d'une part l'insistance sur le mot prophétie pour parler de l'écriture tout entière. L'écriture tout entière est prophétie parce que ses auteurs sont prophètes au sens large. Et d'autre part sur le privilège de l'office apostolique. Pierre rappelle que les apôtres ont été les proches de Jésus, témoins des événements clés de sa transfiguration, par exemple, dans le passage que nous avons lu. C'est cela qui est particulièrement marqué dans ce passage. L'office prophétique et apostolique est décisif. Qu'est-ce que nous apporte dans notre rapport à la Bible, à nous, cette façon de voir la Bible comme le corpus prophético-apostolique? Je crois qu'on peut dire d'abord le lien au contexte historique. Si nous voyons que, en fait, quand nous disons la Bible, ce sont des prophètes qui nous interpellent, des apôtres qui nous portent le message de Dieu, alors nous risquons moins de prendre la Bible en la détachant complètement de son contexte historique, en la prenant comme juste un recueil de formules où nous piquons au hasard, où notre regard suis distraitement les lignes pour que tout à coup nous sentions un petit choc électrique. Oui, nous nous rendons bien compte que ce n'est pas comme ça. Si la Bible est d'abord les prophètes et les apôtres venant jusqu'à nous, nous parlant de la part de Dieu, avec l'autorité de leur office, nous voyons que nous ne pouvons pas lire comme parfois nous sommes tentés de lire. Le contexte historique, les institutions de l'Alliance. Dieu, dans son alliance avec les êtres humains, met en place des structures, il confie des offices, des rôles définis. Et la Bible est liée à cette œuvre de Dieu qui se développe d'abord dans l'ancienne alliance, le régime qu'il a suscité et dont il a fait toutes les dispositions pour Israël, et puis ensuite dans l'Église, qui est l'Israël de Dieu, selon l'expression de l'Épître aux Galates. Et puis je pense qu'il y a aussi, dans cet accent sur les hommes qui ont parlé de la part de Dieu, une reconnaissance de l'humanité de la Bible. Ce sont des hommes qui nous parlent. La Bible est le livre des prophètes et des apôtres. Ils ont rempli leur office correctement. Alors, certes, il faut regarder au-delà de ces hommes, nous allons le dire dans un instant, mais ce sont des hommes qui ont parlé, et il va falloir tenir compte de leur langage, voire du tempérament de l'un ou de l'autre, pour bien comprendre sa manière de parler. Est-ce que j'ai le droit de parler du tempérament des auteurs bibliques? L'apôtre Paul n'hésite pas, au chapitre 10 de l'Épître aux Romains, de parler de l'audace d'Ésaïe. Il dit « Ésaïe s'enhardit jusqu'à dire ». Romains 10, verset 20. Donc, Paul n'a pas hésité à tenir compte de l'humanité de l'auteur biblique Ésaïe, jusqu'à parler de cette disposition qui était liée à son tempérament, à sa démarche au moment où il a écrit, de hardiesse, d'audace. Nous avons à tenir compte aussi de cela, parce que la Bible est vraiment le corpus des écrits des prophètes et des apôtres. Mais comme les prophètes et les apôtres ne sont quand même que des porte-paroles, que ce n'est pas eux qui prennent l'initiative de leur discours, ni qui en décident librement par eux-mêmes, en quelque sorte, le contenu, la chose leur est donnée, alors il faut dépasser cette définition, description de la Bible comme corpus prophético-apostolique, et il faut aller jusqu'au cœur, qui est la Bible, est la parole de Dieu. La Bible étant la parole des porte-paroles de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole des porte-paroles de quelqu'un, c'est la parole de ce quelqu'un. Si prophètes et apôtres, comme nous l'avons dit, sont les mandataires chargés du message de Dieu, c'est bien le message de Dieu que nous trouvons dans leurs écrits. Et c'est ce que la Bible tout au long atteste massivement, que nous puissions faire une sorte d'équation. La Bible est parole de Dieu, cela est la proposition principale que nous trouvons dans bien des versets du Nouveau Testament. Alors je vais juste en sélectionner quelques-uns pour que personne ne soit dans le doute à cet égard. Nous avons par exemple pour la prédication des apôtres, dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul qui évoque tout son enseignement et qu'il dit au chapitre 2 et au verset 13, « Voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser en recevant la parole que nous vous avons annoncée. Vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » Et il ne s'agit pas simplement là d'une façon très globale de dire oui, bon, c'est la manière de pouvoir accéder jusqu'à Dieu. Il y a comme un écho de ce qu'est Dieu, parole dans un sens très lâche. C'est tout à fait précis dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, un autre passage du même apôtre, devant les contestations qu'il y avait dans l'Église. Il dit, si quelqu'un estime être un messager de Dieu ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un ordre du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Traduction de la Bible du Sommeur pour ce passage. Nous avons un exemple aussi très frappant dans l'évangile de Jean, où Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, se réfère à un verset assez obscur, même un peu bizarre, dirions-nous, d'un psaume, et fait le commentaire suivant, au chapitre 10, verset 35. Il prend ce qui, dans ce psaume 82, peut nous étonner un petit peu, des mauvais juges, des magistrats véreux, sont dénoncés par le psaume, et la formule est employée, « J'avais dit, vous êtes des dieux, des Elohim, parce qu'ils représentaient l'autorité divine dans leur office de jugement, mais vous allez être châtiés pour votre façon déshonorante de remplir cet office. » Jésus reprend cette formule dans sa controverse avec les pharisiens et les docteurs de la loi, et il dit, on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde? Oui, je trouve que là la traduction du Sommeur est un peu faible. je vous donne une traduction tout à fait littérale alors, à partir du grec. Je regarde dans mon Nouveau Testament grec et donc au verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit vous êtes des dieux? Si ceci il a appelé Dieu auquel la parole de Dieu est advenue, et l'écriture ne peut être déliée, dissoute. C'est le verbe courant pour délier, dénouer quelque chose. Une image très parlante pour l'affaiblissement de l'autorité. Délier une parole qui est une parole impérative, c'est commencer à en prendre et à en laisser. Donc, et si l'Écriture, dit Jésus, ne peut être déliée, dissoute, la plupart des traductions ont aboli, anéanti. Mais vous voyez, l'image est beaucoup plus parlante. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, comment dites-vous qu'il blasphème? Vous voyez la parole, la manière dont Jésus prend juste une petite formule dans un psaume plutôt obscur et dit l'écriture ne peut être déliée. Il suffit donc d'un petit morceau d'écriture pour qu'on ait là une autorité indiscutable. Et puis il l'appelle en même temps parole de Dieu. Parole de Dieu, écriture, cela va ensemble. Et déjà dans tout l'Ancien Testament, les prophètes sont appelés la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel a parlé. Ils entament très très souvent leur discours par la formule « Ainsi parle l'Éternel ». D'après un théologien australien, c'est 3808 fois dans l'Ancien Testament qu'on a cette formule ou une variante, une formule équivalente. C'est-à-dire avec quelle fréquence elle revient. Et il y a un phénomène extrêmement intéressant qu'a étudié le théologien évangélique Warfield au début du siècle. L'Écriture et la parole de Dieu vont tellement ensemble qu'il arrive au Nouveau Testament de dire Dieu quand on attendrait l'Écriture et de dire l'Écriture quand on attendrait Dieu. Parce que ce que l'Écriture dit, c'est Dieu qui le dit. Ce que Dieu dit, il le dit dans l'Écriture. Alors, exemple de l'expression Dieu, le Créateur, alors que c'est un passage de l'Écriture qui est utilisé, Matthieu 19, lorsque Jésus rappelle l'intention première de Dieu pour le couple humain, le fait que Dieu déteste le divorce, Jésus dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures, Matthieu 19, verset 4, qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et que les deux ne feront plus qu'un, et qu'il a déclaré, le Créateur. Mais dans Genèse 2, le verset en cause, l'homme quittera son père et sa mère, c'est un commentaire de Moïse. C'est Moïse qui écrit ça. Mais ça, c'est dans l'Écriture, donc c'est Dieu qui le dit, pour Jésus. En revanche, un exemple du trajet en sens inverse, mais qui montre à quel point les deux façons de parler étaient équivalentes, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, nous avons une évocation de ce que... Ah ben je suis... Voilà, je ne le trouvais pas, mais je suis dans les Éphésiens. Voilà, Galates chapitre 3, une évocation de ce que l'on trouve à propos d'Abraham. Alors, au verset 6, la Genèse a été citée, la Genèse dans l'Écriture, il a été déclaré pour Abraham, il a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et puis au verset 8, de plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs juste devant lui s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. L'Écriture prévoyait. Bien sûr, c'est Dieu qui prévoyait. L'Écriture n'est pas une personne. Mais il y a une telle proximité. L'Écriture, c'est tellement Dieu qui parle que... Là, l'apôtre Paul a pu utiliser l'expression « l'Écriture prévoyait ». Donc, une extrême proximité, c'est la parole de Dieu que la Bible, en gros et en détail, globalement et dans chaque énoncé particulier qu'un prophète ou un apôtre parlant au nom de Dieu nous propose. C'est de là que la Bible tient son autorité. De même que l'autorité d'un roi s'exerce par la parole de ce roi. S'il était bâillonné, il ne pourrait plus exercer son autorité. L'autorité de sa parole, c'est son autorité mise en œuvre. L'autorité de Dieu s'exerce par sa parole, par l'Écriture. L'autorité de l'Écriture, c'est l'autorité de Dieu qui a parlé et qui tient sa parole. Mais il faut... raffiner encore un peu davantage, une fois qu'on a bien saisi cette vérité centrale, c'est vraiment le cœur. Je pense qu'on peut préciser, c'est la parole de Dieu et la parole de Jésus-Christ, Dieu le Fils, venu parmi nous, venu en chair. Il est lui, la parole ou le Verbe de Dieu, dans un sens suréminent. Mais ce n'est pas tant de ça que je parle que du fait que la Bible, parole de Dieu dans un sens plus ordinaire, ce que Dieu dit, du fait que cette parole est le fruit de ce qu'on appelle l'office prophétique de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous le savez, est titulaire du triple office de prophète, de roi et de prêtre. Il accomplit son ministère prophétique en parlant lui-même, mais aussi indirectement par ceux qu'il s'associe et qu'il conduit par son esprit. Le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est ? Le Nouveau Testament, Jésus n'en a pas, en un sens, écrit une ligne, mais c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus-Christ par ses apôtres qu'il a associés à son humanité pour qu'ils soient ses témoins, pour qu'ils transcrivent son message, ce qu'il avait dit, que les foules avaient entendu. Alors nous avons dans les évangiles une bonne part de choses qui ont été dites effectivement par Jésus et retenues par écrit ou simplement dans la mémoire par les apôtres qui ensuite ont retranscrit. Mais même quand les apôtres n'ont pas retranscrit qu'ils ont parlé au nom du Christ, Le Christ parle par moi, dit l'apôtre Paul dans le dernier chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens. Le Christ parle par moi. Nous sommes ambassadeurs pour le Christ. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu du ciel, ainsi parle l'Éternel. C'est la parole du Christ, de Dieu qui est descendu parmi nous, qui envoie ses apôtres, qu'il a associés à son humanité. Alors, vous allez me dire, c'est clair pour le Nouveau Testament. Ce sont les apôtres. Le Nouveau Testament a été composé par les apôtres sous l'autorité du collège apostolique. Mais pour l'Ancien Testament, eh bien, je crois pouvoir dire que pour l'Ancien Testament aussi, il faut dire cela, et c'est également Pierre qui le met en valeur, cette fois dans sa première épître. Dans sa première épître, il parle des prophètes qui ont apporté leur message avant la venue de Jésus-Christ. Et il dit du salut que Jésus-Christ a accompli, 1 Pierre 1,10, qu'il a fait l'objet des recherches, des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Il cherchait à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes aussi, par avance, parce qu'ils sont intégrés dans une histoire qui est faite pour aboutir à Jésus-Christ, qui est toute conçue pour aboutir à Jésus-Christ et qui tient déjà par lui. À cause de cette structure-là, les prophètes de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, ont aussi parlé par l'Esprit du Christ. Donc on peut dire, me semble-t-il, que c'est Jésus-Christ qui est le prophète qui parle dans toute la Bible par l'instrument des prophètes et des apôtres. Et ça me paraît très intéressant à deux égards. Je résume bien entendu, mais cela pourra vous permettre de réfléchir. D'abord, nous comprenons mieux l'alliance entre auteur et contenu. La Bible est tout entière témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. La Bible est tout entière témoignage de Jésus-Christ dans le double sens que c'est à partir de lui qu'il y a cette parole humaine qui est parole de Dieu. À partir de sa venue, Dieu descend parmi les hommes, parle la langue des hommes. Oui. Il y a donc témoignage de Jésus-Christ dans ce sens que c'est le témoignage qui part de lui, et il y a témoignage de Jésus-Christ dans ce sens que c'est lui le sujet, c'est lui duquel il est question. Toutes les Écritures rendent témoignage de moi, dit-il, celle de l'Ancien Testament comme celle du Nouveau Testament. Ce que Pascal a su dire si fortement. Toutes les Écritures ont Jésus-Christ pour modèle, pour centre. L'Ancien Testament regarde à lui comme son modèle, le Nouveau comme son centre, comme à son centre. C'est le témoignage de Jésus-Christ, quant à l'origine et quant au contenu. Voilà ce que voir la Bible de cette façon met en valeur. Et aussi, me semble-t-il, la part de l'humanité des auteurs humains. J'ai dit tout à l'heure que d'écrire la Bible comme le corpus des prophètes et des apôtres nous permettait de bien voir la part de leur humanité dans la rédaction de la Bible. Mais nous avons la justification théologique maintenant. C'est parce que ces humains sont associés à l'humanité de Jésus-Christ. Dieu, pour nous parler, descend parmi nous, devient homme en Jésus-Christ. Et devenu homme, il s'associe comme des prolongements de son humanité, ses frères, les apôtres. Et puis déjà, il avait préparé les choses en s'associant par avance les prophètes. Et c'est comme ça que nous sommes obligés de dire, ces apôtres et prophètes n'ont pas été de simples micro, haut-parleur pour la parole de Dieu. Ils ont compté bien davantage parce qu'ils correspondent à l'humanité de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que leur tempérament s'exprime? Pourquoi est-ce que c'est une véritable responsabilité qu'ils exercent? Parce que leur humanité compte. pour Dieu lui-même quand il nous parle. Et pourquoi compte-t-elle quand il nous parle? Parce qu'il est devenu homme lui-même. Vous voyez comment ces choses-là donc peuvent trouver éclairé. Et puis, dernier aspect à mettre en valeur, j'ai dit, c'est la parole de Jésus-Christ, mais j'ai utilisé comme argument que c'est l'Esprit du Christ qui a parlé par les prophètes et dans les apôtres. Les apôtres sont les hommes de l'Esprit. En fait, c'est en leur donnant l'Esprit, Jean 16, que Jésus fait de ses apôtres ceux qui vont prolonger son œuvre. On peut dire aussi bien que la Bible est la parole de l'Esprit. C'est la parole de Dieu, parole du Fils, Jésus-Christ incarné, parole de l'Esprit. Et c'est ce que veut dire le mot « inspiré ». Toute écriture est inspirée de Dieu. Deuxième à Timothée, chapitre 3, verset 16, ça veut dire produite par l'Esprit. Ça ne veut pas dire autre chose fondamentalement. C'est grâce au ministère de l'Esprit de Dieu que la Bible a pu être composée, que d'abord les messages ont pu être prêchés, ensuite mis par écrit. La Bible est le livre de l'Esprit de Dieu. Et deux considérations, là, pour conclure, me semblent précieuses. D'abord, étant le livre de l'Esprit, la Bible est vraiment le livre où se joignent la divinité et l'humanité. C'est l'Esprit qui est l'agent de l'union entre Dieu et les humains, même dans le cas de la personne de Jésus. Comment est-ce que Dieu le Fils est devenu homme? Il a été conçu du Saint-Esprit. Et dans toute son activité, c'est avec l'Esprit reposant sur lui qu'il a agi, et il s'est offert par l'Esprit éternel sur la croix. Mais déjà, pour s'unir à l'humanité, il a été conçu du Saint-Esprit. Luc souligne que c'est le Saint-Esprit couvrant de son ombre Marie qui permettra qu'elle enfante le Messie. Donc, c'est par l'Esprit que l'humain et le divin s'unissent. Celui qui est uni à Jésus-Christ est un seul esprit avec lui, dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Et voilà ce qu'il nous explique, que la Bible soit à la fois parole de Dieu et parole humaine, vraiment. Et puis l'autre aspect de cet accent sur l'Esprit, c'est que l'Esprit unit tellement la divinité à nous, œuvrant en nous, qu'il se met même de notre côté. C'est une vérité extraordinaire, magnifique, que nous enseignent plusieurs passages du Nouveau Testament. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». L'Esprit intercède, surintercède en nous, qui savons si mal prier. Oui. Romains 8. L'Esprit se met de notre côté. C'est là, je dirais, la profondeur du don de l'Esprit. Et qu'est-ce que ça implique pour l'inspiration de la Bible, que la Bible soit la parole de Dieu? Un fait que sur lequel nous reviendrons, nous y réfléchirons à propos du canon de l'Ancien Testament en particulier, mais qui devrait nous frapper. Il y a dans la Bible la parole de Dieu, des tas de paroles adressées à Dieu. Pensez à tout le livre des psaumes, toutes les prières, toutes ces choses qui sont adressées à Dieu, sont-elles paroles de Dieu pour nous? Mais oui, les deux à la fois, parce que justement l'Esprit nous est donné pour nous permettre de parler à Dieu selon Dieu. Une parole de Dieu nous est donnée pour que nous la disions à Dieu. Nous sommes comme intégrés dans le cercle de la vie divine par le don de l'Esprit. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible, avec tous ces textes adressés à Dieu et qui sont paroles de Dieu en même temps. Vous voyez les richesses de ces diverses façons de voir la Bible. Là, nous sommes, je crois, au cœur de la vérité sur la nature de la Bible. Et nous voyons à quel point il serait sot et fou d'opposer paroles de Dieu et paroles humaines dans la Bible. C'est au contraire le grand mystère de l'union par l'Esprit en Jésus-Christ de l'humain et du divin qui se trouve reflété dans ce qu'est la Bible. Merci d'avoir suivi jusqu'à ce point. C'est l'heure maintenant. Si quelqu'un a une question, je peux en tout cas, hors séance, tenter d'y répondre. Hein. Vous pouvez venir et me demander.